Chapitre 11. Poussée par une curiosité mêlée d'inquiétude, Anna s'attaqua sans plus tarder aux marches couvertes de poussière. Jensen sur les talons, la vieille dame atteignit un palier, remonta un couloir très court sur la droite, puis descendit jusqu'à un autre palier où l'escalier tournait cette fois sur la gauche. Le passage devint soudain plus étroit et si bas de plafond que la vieille dame, pourtant courte sur pattes, se sentit écrasée et baissa instinctivement la tête. De plus en plus, elle avait l'impression d'être avalée par un gosier géant qui la laisserait descendre jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'estomac du cimetière. Au pied de l'escalier, Anna s'immobilisa, les yeux ronds de surprise, et Jensen poussa un long sifflement étonné. Les deux femmes n'avaient pas abouti dans un donjon sinistre, mais sur le seuil d'une pièce à la configuration totalement inhabituelle. En 10 siècles d'existence, l'ancienne dame abbesse n'avait jamais rien vu de tel. Des murs de pierre indépendants les uns des autres étaient disposés au hasard, comme si on avait voulu en faire les cloisons aléatoires d'un labyrinthe. Tous d'une conception différente, certains en pierre brute et d'autres enduits de plâtre, ces fragments de construction semblaient se succéder sur une très grande distance. Plus que d'une crypte, il s'agissait d'une immense salle souterraine qui rappela à Anna les catacombes du palais des prophètes. Il régnait dans ces lieux un étrange désordre organisé qui mettait mal à l'aise la vieille dame. Certains murs portaient, comme une blessure, une niche entourée de symboles et d'ornements bleus à demi passés et effacés. Il y avait aussi des inscriptions, mais bien trop vieilles et attaquées par la moisissure pour être aisément lisibles. Un peu partout, des bibliothèques et des tables de travail flanquées de chaises meublaient ce dédale baroque et sinistre. Des toiles d'araignées depuis longtemps desséchées tenaient lieu de tenture à cette antichambre géante de la mort. Les bougies qui brûlaient sur toutes les tables et dans certaines niches fournissaient une lumière maladive parfaitement adaptée à un cimetière. Comme si les morts allongés au-dessus de la tête d'Anna venaient périodiquement tenir de tristes réunions en ce lieu et accueillir comme il se doit les nouveaux membres de leur glaciale confrérie. Derrière le rideau de fil de la Vierge trônant devant 4 tables qu'on avait tirées les unes à côté des autres, Nathan consultait un ouvrage posé sur le peu d'espace disponible qui subsistait encore entre d'impressionnantes piles de livres.
« Te voilà enfin !»
dit-il en levant à peine les yeux de son grimoire. Anna interrogea du regard Jensen, qui lui répondit aussitôt.
« J'ignorais l'existence de ces catacombes. Je ne savais même pas qu'il y avait une salle souterraine. »
« D'après moi, tu n'es pas la seule, » souffla Anna en regardant autour d'elle. « Je doute que quiconque ait eu vent de l'existence de cet endroit depuis des millénaires. Je me demandais comment il l'avait trouvé. »
Nathan referma le livre et le posa sur une pile toute de guingois qui ne tarderait pas à s'écrouler. Puis il se tourna vers Anna, ses longs cheveux blancs ondulant sur ses épaules et riva ses yeux bleu foncé dans les siens. La vieille dame comprit aussitôt le message muet.
« Jensen, pourquoi ne remontes-tu pas à tenir compagnie à Tom? Monter la garde dans un cimetière doit être mortellement ennuyeux. »
La sœur de Richard ne cacha pas sa déception, mais elle parut comprendre que les deux vieillards avaient besoin d'être seuls.
« D'accord. S'il vous faut quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler. »
Alors que les bruits de pas de la jeune femme résonnaient dans l'escalier, Anna se faufila entre les toiles d'araignée puis se campa devant le prophète.
« Nathan, quel est cet endroit ? Inutile de murmurer. Regarde la disposition des murs. » Ces angles bizarres étouffent les sons. »
Anna tendit l'oreille et constata que son vieil ami avait raison. D'habitude, l'écho était presque insupportable dans les catacombes de ce type. Ici, on pouvait crier sans briser le silence de mort ambiant.
« Nathan, la forme de cette pièce me semble vaguement familière. Une sorte de dissimulation, »
marmonna Nathan.
« Pardon ? « Les murs imitent à la perfection les runes qui composent un sort de dissimulation. Regarde bien.
Ici, contrairement au palais du peuple, le sortilège n'est pas dessiné par la configuration globale des lieux. La structure générale, la disposition des pièces et des couloirs. Non, les lignes du schéma sont représentées par les murs. On dirait que quelqu'un a ainsi tracé le sortilège, puis construit autour les murs extérieurs, qui délimitent en quelque sorte le cadre du tableau. Une façon de procéder très intelligente.
Pour qu'un tel sort fonctionne, il avait certainement fallu le dessiner d'abord avec du sang et des ossements humains. Pour ces derniers, les réserves ne devaient pas manquer dans le coin.
« Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal, »
dit Anna en regardant de nouveau autour d'elle.
« Mais dans quelle intention ?»«
Je n'en sais trop rien, » avoua Nathan. « Je ne saurais dire si ces ouvrages étaient là pour rester enterrés avec les morts jusqu'à la fin des temps, ou si on entendait simplement les cacher. »
Il tendit un bras.
« C'est par là. Laisse-moi te montrer quelque chose. »
Anna se laissa guider dans le dédale jusqu'à un grand mur qui abritait trois niches en forme d'arche. Nathan tendit un long index délicat vers la première.
« Jette un coup d'œil, »
dit-il. Anna se pencha et obéit. La cavité contenait un cadavre. Enfin, plutôt un squelette vêtu de haillons. Une ceinture de cuir entourait encore la taille de la dépouille et une bandoulière de cuir lui barrait une épaule. Les bras croisés sur la poitrine, le défunt portait autour du cou plusieurs chaînes en or. Un des médaillons brillait comme s'il était plus neuf que les autres. Simplement parce que Nathan l'avait soulevé pour l'examiner, le débarrassant d'une couche de poussière.
« Tu sais de qui il s'agit ?»
demanda Anna.
« D'un prophète, je crois, »
souffla Nathan en se penchant un peu vers son ami.
« Je croyais qu'il était inutile de murmurer. »
Encaissant le cou avec grâce, Nathan se redressa de toute sa hauteur.
« Il y a beaucoup d'autres dépouilles ici. » Par là, vers le fond de la crypte.
Anna se demanda si tous les morts étaient des prophètes.
« Et les livres ?»
lança-t-elle. Nathan se pencha de nouveau et murmura.
« Des recueils de prophéties. »
« Plaît-il ? Tous ces ouvrages, ce sont tous des recueils de prophéties ?»«
Presque tous, oui. »
Anna sentit son cœur s'emballer. Les grimoires de ce genre étaient d'authentiques trésors. Selon ce qu'ils contenaient, leur lecture fournirait aux deux amis des réponses qu'ils cherchaient depuis des siècles. S'ils leur épargnaient des erreurs et comblaient certaines lacunes dans leurs connaissances, ces livres pouvaient être la clé de tout. Surtout s'ils leur en apprenaient plus sur la bataille finale qu'ils devraient tôt ou tard livrer sous les ordres de Richard. Pour l'instant, Anna et Nathan ignoraient quand aurait lieu cet affrontement déterminant. Les prophéties se montrant volontiers approximatives, ce pouvait être dans des années. Des décennies même, car rien ne disait que Richard ne serait pas un vieillard lorsque viendrait le moment d'accomplir sa destinée. Les dernières années n'ayant pas été très fructueuses pour les défenseurs du Nouveau Monde, un répit ne serait pas malvenu, car il leur laisserait le temps de se préparer. Les prédictions pouvaient au moins leur donner des indices. Des milliers de recueils de prophéties avaient brûlé le jour de la destruction du Palais des Prophètes. À crève-cœur, mais il aurait été dramatique que ces textes tombent entre les mains de Jagang. Et maintenant, voilà que d'autres catacombes abritaient des myriades de grimoires, et grâce aux sorts de dissimulation, nul ne connaissait leur existence.
« Nathan, c'est merveilleux !»
La lueur qui passa dans le regard du prophète doucha un peu l'enthousiasme d'Anna.
« C'est inespéré même !»
insista-t-elle.
« J'ai peur que ce soit plus compliqué que ça. »
Nathan se détourna de la niche et rebroussa chemin.
« Certains de ces ouvrages me font douter de ma santé mentale. »«
Enfin !»
s'écria joyeusement Anna.
« Depuis le temps que je te le dis. »
Nathan s'arrêta et fit demi-tour.
« Il n'y a rien de drôle là-dedans, tu peux me croire. »
Anna en eut aussitôt la chair de poule.
« Dans ce cas, » dit-elle, « montre-moi ce que tu as découvert. »«
Si au moins j'étais sûr, »
soupira Nathan. Il repartit, se faufilant timidement entre les tables comme s'il était un intrus, une humilité qui ne lui était absolument pas coutumière.
J'ai commencé par classer ces livres. »
Anna résista à l'envie de pousser le prophète à entrer dans le vif du sujet. Quand la magie était concernée, il valait mieux le laisser s'expliquer à sa façon, surtout lorsque quelque chose le tracassait.
« Les classer ? Oui, tu vois cette pile-là. Ces ouvrages ne nous serviront pas à grand-chose. Certains contiennent des prédictions dépassées ou des archives inexactes. D'autres sont rédigés dans une langue que je ne pratique pas. Enfin, tu vois ce qu'il en est. »
Nathan tapota une autre pile, soulevant un petit nuage de poussière.
« Là, ce sont les ouvrages que nous avions au palais. Sur toute cette table, en fait. »
Les yeux ronds, Anna regarda les bibliothèques et les niches qui s'étendaient à perte de vue.
« Il y a au moins 10 fois plus de livres que ça. Que dis-je, 100 fois plus? Tu n'en as classé qu'une infime partie. »
« C'est exact. Je n'ai même pas pu les regarder tous. Au bout d'un moment, j'ai décidé d'envoyer Tom à ta recherche, histoire que tu vois ce que j'ai découvert. Bon, maintenant nous avons de la lecture sur la planche, si j'ose dire. J'ai prélevé les ouvrages un par un, vérifié de quoi ils parlaient, puis j'ai fait 2 pages. »
Anna se demanda combien de ces grimoires pouvaient être encore lisibles après des millénaires de vieillissement sous terre. Par le passé, il lui était arrivé de trouver des livres détruits par le temps et les éléments. L'eau et la moisissure en particulier étaient des ennemis mortels du parchemin. Levant les yeux, elle ne vit cependant aucune trace d'humidité.
À première vue, ces livres n'ont pas été abîmés par l'eau. Comment une salle souterraine peut-elle rester à l'abri de l'humidité ? Il devrait y avoir des infiltrations, d'autant plus que nous parlons de millénaires, pas de décennies ou de siècles. Ces livres semblent si bien conservés que je n'en crois pas mes yeux.
« Semble » est le verbe clé, marmonna Nathan.
« Que veux-tu dire ? »
« Plus tard, femme, plus tard. Pour répondre à ta question, les murs et le plafond sont revêtus de plomb pour empêcher l'eau de traverser. La salle bénéficie également de la protection d'un bouclier. Accessoirement, il y en avait aussi un à l'entrée.
Mais les bandes d'Akkar sont incapables de lancer des sorts et nul ne pouvait entrer dans leur pays. Contre quelle magie a-t-on protégé ces catacombes ?
La barrière qui interdisait d'entrer dans l'Empire a fini par disparaître,
rappela Nathan.
C'est vrai. Je me demande comment ça a pu arriver.
Même si elle me tracasse aussi, cette question n'est pas à l'ordre du jour.
Nathan eut un geste presque nonchalant.
Pour le moment, tout ce qui importe, c'est qu'elle a disparu. Les gens qui ont caché ces livres ici se sont donné beaucoup de mal pour qu'ils restent en sécurité et en bon état. Les bandes d'Akkar ne pouvaient pas être arrêtées par les boucliers, mais le poids du monument, en revanche, était un obstacle. Cela dit, pourquoi auraient-ils voulu le déplacer ? Pour ça, ils auraient dû savoir qu'il y avait quelque chose dessous. Et au nom de quoi s'en seraient-ils doutés ? Ce sanctuaire est resté inviolé jusqu'à aujourd'hui, la preuve qu'ils n'ont jamais rien soupçonné. Selon moi, les boucliers étaient là pour arrêter d'éventuels envahisseurs, les hommes de Jagang, par exemple.
Une théorie qui se tient,
concéda Anna.
Il pouvait s'agir d'une précaution au cas bien improbable où la barrière magique disparaîtrait.
Ou parce qu'une prophétie avait annoncé sa disparition.
C'est une possibilité, bien sûr.
Pour passer outre de tels boucliers, il fallait un sorcier de l'envergure du prophète. Anna elle-même s'y serait cassé les dents, et pour franchir certaines protections magiques placées dans l'ancien temps, il fallait même recourir à la magie soustractive.
Il est aussi possible qu'on ait voulu préserver ces ouvrages, au cas où il arriverait malheur aux autres exemplaires existants.
Nathan, tu crois que quelqu'un aurait fait tant d'efforts pour ça ?
Eh bien, tous les grimoires et les recueils du palais des prophètes ont été perdus, non ? Les livres précieux sont toujours en danger. Certains brûlent, d'autres tombent entre les mains de l'ennemi et d'autres disparaissent, tout simplement. Ces catacombes sont une sorte de salle du trésor, et c'est justifié si une prophétie annonçait la perte des autres livres.
Tu as peut-être raison. J'ai entendu dire que certains livres de prophétie étaient gardés dans des endroits secrets, afin de les préserver ou d'empêcher des profanes de les consulter. Mais là, il y en a tellement. C'est, eh bien, déconcertant.
Nathan tendit à son ami un livre dont la couverture rouge avait par endroits tourné au marron foncé. Même ainsi, le volume avait des airs familiers, peut-être à cause du lettrage d'or passé sur la tranche. Anna ouvrit le livre à la page de titre.
« Eh bien, eh bien !»
murmura-t-elle impressionnée.
« Le livre de Glendil sur la théorie de la déviation ? Je suis émerveillée de l'avoir de nouveau entre les mains !»
Elle referma le livre et le serra contre elle.
« Comme si un très cher ami revenait d'entre les morts !»
Cet essai sur les prophéties à fourche était un des ouvrages de référence d'Anna. Le texte contenait une multitude d'informations capitales sur Richard. Tandis qu'elle attendait la naissance du sorcier, elle l'avait si souvent consulté et cité qu'elle le connaissait pratiquement par cœur. Elle avait été désolée qu'il ait brûlé avec les autres volumes conservés au palais des prophètes, d'autant plus que Nathan et elle étaient loin d'avoir tiré toute la substantifique moelle de cet extraordinaire travail de compilation et d'analyse. Nathan prit un autre livre sur une pile et le brandit sous le nez d'Anna.
« Précession et inversion binaire !»
annonça-t-il triomphalement.
« Non !»
s'écria Anna.
« C'est impossible !»
Dans les archives, rien ne confirmait l'existence de ce texte mythique, ni ne l'infirmait radicalement, fallait-il ajouter. À la demande de Nathan, Anna avait cherché à se procurer cet ouvrage partout où ses voyages l'avaient conduite, et elle avait chargé de cette mission toutes les sœurs amenées à se déplacer au service du Créateur. Certaines avaient découvert des pistes, mais aucune n'avait jamais abouti.
« Je ne rêve pas ?»
demanda l'ancienne dame abbesse.
« Certains historiens assurent que ce livre n'a jamais existé. »
« D'autres disent qu'il est perdu depuis des lustres, et d'autres encore qu'il n'est plus qu'un mythe. « J'ai feuilleté cet exemplaire, Anna. Si on considère les branches de prophétie qu'il contient, il doit être authentique. Sinon, c'est l'œuvre d'un faussaire de génie. Mais pourquoi aurait-on entreposé ici une contrefaçon? En général, on les fabrique pour gagner de l'argent. »
Un raisonnement qui se tenait.
« Et il était là depuis des millénaires, enfoui sous un cimetière. »
« Avec d'autres livres tout aussi précieux, je m'empresse de le préciser. »«
Nathan, »
dit Anna, admirative et stupéfiée,
« tu as découvert un trésor d'une valeur inestimable. »«
Peut-être, »
marmonna le prophète. Anna fronça pensivement les sourcils. « Que voulait dire ce « peut-être »?»«
Tu ne vas pas en croire tes yeux à présent. » Ouvre ce grimoire et lis le titre à haute voix. »
À contre-cœur, Anna posa le précieux volume et prit celui que lui tendait Nathan. Elle le posa sur la table, se pencha, l'ouvrit, lut le titre et sursauta.
« La septième tâche de Celeron. Je pensais qu'il n'y avait qu'un exemplaire, depuis longtemps détruit, hélas !»
Nathan eut un étrange petit sourire, puis il s'empara d'un autre livre.
« Et voici 12 mots épargnés pour la raison. Au cas où ça t'intéresse, j'ai également trouvé les jumeaux de la destinée. »
Nathan désigna une pile branlante.
« Il est quelque part là-dedans. »
Anna en resta un moment bouche bée.
« Je pensais que ces prophéties étaient à jamais perdues, »
dit-elle quand elle eut recouvré l'usage de la parole. Toujours souriant, Nathan se contentait de regarder sa vieille amie, qui lui prit soudain le bras.
« Venons-nous de trouver des copies de tous ces livres légendaires ?»
Nathan hocha simplement la tête, mais son sourire s'effaça.
« Anna, »
dit-il,
« feuillette, 12 mots épargnés pour la raison,
et dis-moi ce que tu en penses. »
Troublée par la gravité de son compagnon, la dame abbesse poussa le livre près d'une bougie et tourna très délicatement les pages. L'encre était un peu passée, mais ça n'avait rien de surprenant pour un texte si vieux. Malgré le passage du temps, le livre restait en bon état et il se révéla parfaitement lisible. Ce grimoire mythique contenait 12 prophéties mères et une multitude de branches secondaires. Ces dernières, lorsqu'on croisait correctement les références, permettaient de relier des événements réels à une kyrielle d'autres recueils de prédictions qu'il aurait été sinon impossible de situer chronologiquement. Bizarrement, les 12 prophéties principales n'avaient pas une grande importance. Toute la valeur du recueil provenait de son matériau secondaire. Quand on tentait d'interpréter des prédictions, la chronologie était presque toujours le problème le plus épineux. Comment savoir si un événement aurait lieu le lendemain ou dans un siècle? Le flot du temps était si capricieux. Le repérage chronologique des prophéties était un point crucial. Pas seulement pour savoir quand une prédiction se réaliserait, mais parce que ce qui pouvait paraître terriblement important une année devenait purement anecdotique si on se plaçait dans le contexte de l'année suivante. Tant qu'on ignorait la date à laquelle une prophétie se réaliserait, impossible de savoir si elle annonçait un danger mortel ou une banale épidémie de grippe. La plupart des prophètes laissaient à leurs successeurs le soin de situer leurs prédictions dans l'histoire du monde. Personne ne savait si c'était délibéré ou non. Les grands visionnaires du passé s'étaient-ils fichus comme d'une guigne de ce qui viendrait après eux, ou n'avaient-ils simplement pas mesuré à quel point il serait difficile, des siècles plus tard, d'organiser chronologiquement leur fulgurance? Pour avoir côtoyé Nathan, Anna savait que les prophètes, pour qui les prédictions étaient apparemment toujours claires comme de l'eau de roche, avaient du mal à comprendre que d'autres se cassent les dents sur leurs textes souvent plus qu'allusifs.
« Minute !»
s'écria soudain Nathan.
« Reviens une page en arrière !»
Anna plissa le front mais obéit.
« Lis, tu vas voir qu'il manque plusieurs lignes. »
La dame abbesse fit ce que lui disait Nathan. Il y avait bien un blanc, mais c'était fréquent dans tous les grimoires et pour une multitude de raisons.
Et alors ?
Au lieu de répondre, Nathan fit signe à sa vieille amie de continuer à tourner les pages. Elle s'exécuta jusqu'à ce que le prophète lui fasse signe d'arrêter, lui montre un nouveau blanc, puis l'incite à reprendre l'exercice. Anna constata que les blancs étaient de plus en plus fréquents. Puis elle tourna plusieurs pages vierges. Là non plus, ça n'avait rien d'extraordinaire. Certains grimoires s'arrêtaient ainsi en plein milieu. Sans doute parce que leur auteur était mort avant d'en avoir terminé la rédaction. Par respect, les prophètes suivants s'étaient abstenus d'achever le travail d'un maître défunt, ou ils avaient tout bêtement entrepris d'écrire un ouvrage sans rapport avec celui du mort.
« 12 mots !»
dit Nathan, utilisant l'abréviation fort commune parmi les initiés.
« Est un des rares recueils de prophéties chronologiques. »
Anna le savait, bien entendu. C'était même ce point qui en faisait un ouvrage d'exception. Mais pourquoi Nathan enfonçait-il ainsi les portes ouvertes ?
« Eh bien,
soupira la vieille dame,
c'est assez curieux. Selon toi, que signifient ces passages blancs ?»
Nathan ne répondit pas, mais tendit un autre livre à sa compagne.
« Subdivision de la racine de Burkett,
annonça-t-il.
« Feuillette-le aussi. »
Anna tourna les pages de cet autre rarissime grimoire. Là aussi, il y avait des pages blanches, 3 pour être précis, à un endroit incongru.
« Que suis-je censé voir ?»
demanda la dame abbesse, agacée par le petit jeu de Nathan. Le prophète prit son temps pour répondre. Et quand il le fit, la gravité de son ton glaça les sangs d'Anna.
« Nous avions des exemplaires de ces livres au palais. »
Encore une porte ouverte d'enfoncée.
Je sais, je m'en souviens très bien.
Nos exemplaires n'avaient pas de pages ou de passages blancs.
Anna baissa les yeux, feuilleta le livre en arrière, revint en avant, nota que les pages blanches précédaient l'exploration d'une nouvelle branche de la prophétie traitée et eut un soupir de lassitude.
On dirait que le copiste, pour une raison inconnue, n'a pas voulu reproduire une partie du texte.
Peut-être parce qu'il savait, au moment où il dupliquait le livre, que le passage en question était une branche morte. En un sens, c'est logique. Pourquoi inclure dans un grimoire une prédiction qui n'a aucun sens? Cette démarche n'a rien d'inhabituel, surtout quand le copiste, pour ne pas tromper le lecteur, prend soin de signaler matériellement les pages blanches qu'il y a eu des coupes.
Anna leva les yeux, vit que Nathan la regardait fixement et sentit soudain de la sueur couler entre ses omoplates.
« Regarde le Glendil, » dit Nathan, utilisant une autre abréviation d'érudit.
Anna prit le grimoire et le feuilleta un peu plus vite que les précédents. Il y avait aussi des pages vierges, encore plus nombreuses.
« Une copie peu fiable, » murmura la dame abbesse.
Un rien agacé, Nathan tendit une main et revint à la page de titre. En haut, il y avait la signature magique de l'auteur.
« Créateur bien-aimé !»
soupira Anna en étudiant le symbole stylisé. On captait encore le pouvoir contenu par ces quelques signes tracés d'une main sûre.
« Ce n'est pas une copie, mais l'original. »
« Exactement. Si tu te souviens, celui que nous gardions dans les catacombes était une copie. »
« Je n'ai pas oublié, tu as parfaitement raison. »
Anna avait d'abord pensé que cet exemplaire-là était un duplicat. Les recueils de prophéties étaient souvent des copies, mais ça ne diminuait en rien leur valeur. Les textes étaient vérifiés, puis signés par des érudits reconnus qui n'auraient pas entériné de grossières falsifications. L'intérêt d'un grimoire résidait dans les informations qu'il transmettait. Qu'il soit ou non un original n'avait aucune importance. La prophétie seule comptait, pas la plume qui avait tracé les lettres. Cela dit, avoir entre les mains l'original d'un livre qu'on aimait était une expérience inoubliable. Imaginez que ces prédictions étaient consignées par écrit de la main même du prophète qui les avait conçues.
Nathan, je ne sais que dire. Je suis si heureuse de tenir ce livre que j'aime tant et...
Les pages blanches, coupa le prophète. Tu en penses quoi?
Je ne sais pas trop, et je ne me sens pas en état d'émettre une hypothèse. Où veux-tu en venir?
Étudie les endroits où il manque du texte.
Anna lut quelques lignes qui précédaient les pages vierges, puis elle passa à la suite du texte et sursauta. La prophétie concernait Richard. Elle chercha une autre section pareillement tronquée et vit qu'elle traitait également du sourcier actuel. Un troisième passage confirma cette tendance.
Il y a des blancs aux endroits qui évoquent Richard.
Nathan eut un soupir agacé.
C'est parce que le Glendil parle presque exclusivement de lui. Dans les autres livres, on ne retrouve pas cette constante.
Dans ce cas, je donne ma langue au chat. Désolé, mais je ne vois pas ce qui te saute pourtant aux yeux.
Rien ne me saute aux yeux, justement. Le problème, ce sont les pages blanches.
Comment peux-tu le savoir, puisqu'il n'y a rien dessus?
Je le sais, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'étrange avec ce que tu tiens pour des coupes.
Anna repoussa dans son chignon une mèche de cheveux gris indisciplinée. Tout ça commençait de lui flanquer la migraine.
Et il s'agit de quoi?
C'est à toi de me le dire. Je parie que tu sais pratiquement par cœur des passages entiers du Glendil.
C'est possible.
Moi, j'en connais. En fait, je peux réciter en totalité l'exemplaire que nous avions dans les catacombes. J'ai comparé ce texte avec ce que ma mémoire a enregistré.
Anna sentit son estomac se nouer à l'idée que leur exemplaire ait été truffé de fausses prédictions tout au long des pages que l'auteur avait volontairement laissées vierges. Une pareille catastrophe a fait de quoi vous donner des sueurs froides.
Et quel a été le résultat?
Je cite très exactement le texte original. Rien de plus, ni de moins.
Anna soupira de soulagement.
Nathan, c'est formidable. La preuve que notre exemplaire n'était pas rempli de prophéties mensongères. Pourquoi es-tu perturbé de ne pas te souvenir de pages blanches? Il n'y a rien dessus, donc rien que tu aurais pu mémoriser.
Notre exemplaire n'avait pas de page blanche.
C'est vrai, je m'en souviens très bien. Mais où est le problème? Si nous avions tout le texte, comme tu sembles le dire, ça signifie que le copiste n'a pas jugé bon d'insérer les paragraphes et les pages vierges laissées par l'auteur. Le prophète avait probablement pris cette précaution pour pouvoir rajouter des informations ou corriger ce qu'il avait écrit. À l'évidence, il n'a pas eu besoin de le faire et les vides sont restés.
Anna, je sais que notre exemplaire comptait plus de pages.
Dans ce cas, je ne te suis plus.
Tu ne comprends pas. C'est pourtant simple. Regarde le livre. Cherche l'avant-dernière branche de l'ultime prophétie. Il y a une page de texte suivie de 6 pages blanches. Dans notre exemplaire du Glen Hill, as-tu souvenir d'une seule branche qui est tenue sur une unique page? Non. Aucune n'était si courte. Tout était trop complexe. Tu sais que le livre en disait plus long, je le sais aussi, mais mon esprit est aussi vide que ces pages. Le texte manquant s'est également effacé de ma mémoire. Et sauf si tu peux le réciter, il a aussi déserté la tienne.
Nathan, ce n'est pas... Je veux dire, on ne peut pas...
Le prophète s'empara d'un autre livre.
« Conte des origines, » dit-il sobrement. « Tu dois te souvenir de cet ouvrage. »
Anna prit le livre et le regarda avec une sorte de vénération.
« Bien sûr que je m'en souviens. Comment pourrait-on oublier un livre si court mais tellement magnifique ?»
Ce texte prophétique était un cas unique dans l'histoire, car il était rédigé comme un roman. Anna aimait l'histoire que racontait ce volume, même si elle ne l'aurait pas avoué sous la torture, elle avait un faible pour les romances. L'ouvrage étant en réalité un recueil de prédictions, elle avait eu un prétexte officiel pour le lire et le relire sans jamais se lasser. Avec un petit sourire, elle souleva la couverture.
Des pages blanches. Rien que des pages blanches. Et maintenant, dis-moi de quoi parle ce livre.
Anna ouvrit la bouche, mais aucun son ne consentit à en sortir.
Je sais que tu étais folle de ce roman. Cite-moi une seule ligne de ce texte. Résume-moi le début, le milieu et la fin.
La mémoire d'Anna continuait à lui faire défaut.
Parle-moi de ce livre, je t'en prie.
Nathan, c'était ton livre de chevet à une époque. Tu le connais encore mieux que moi. De quoi te souviens-tu?
De rien. Absolument rien.